Il est précisément 18h sur France Culture, le journal de rédaction Claire Checaglini. Bonsoir Claire.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. La Turquie à l'offensive en Syrie en représailles aux attaques de jeudi. La Turquie qui laisse les migrants tenter de rejoindre la Grèce. Un chantage migratoire pour faire pression sur l'Europe. Les explications d'Aurélien Colli, l'envoyé spécial de Radio France à la frontière turco-syrienne. Élection législative en Israël, les troisièmes en 11 mois. Reportage parmi les colons israéliens de Cisjordanie. Le Louvre restait vide aujourd'hui. Les agents du musée le plus visité au monde ont fait jouer leur droit de retrait. Épidémie de coronavirus oblige. Dernière ligne droite pour les négociations annuelles sur l'alimentaire. Habituellement, les tractations viraient au combat entre David et Goliath, mais cette année, la loi Egalim s'applique. Alors a-t-elle vraiment changé la donne? L'enquête d'Anne Lorchouin à suivre. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne viennent d'être convoqués pour une réunion d'urgence au sujet de la situation en Syrie. Ce rendez-vous intervient alors qu'Ankara a annoncé avoir mené aujourd'hui une offensive militaire d'envergure contre le régime de Bachar el-Assad. Pour Recep Tayyip Erdogan, il s'agit de représailles après la mort jeudi de 33 soldats turcs à Idlib, dans le nord-ouest du pays. Aurélien Colli, vous êtes le correspondant de Radio France dans la région et vous vous trouvez actuellement à la frontière syro-turque où les combats se sont donc intensifiés.
Oui, depuis 24 heures, Claire, les drones turcs multipliaient les frappes sur des positions du régime syrien. Images en boucle sur les télévisions turques de tanks, de canons, de colonnes de soldats pulvérisés par ces bombardements ciblés. Et avec au sol une contre-offensive menée par les rebelles syriens, appuyée par les renforts turcs envoyés dans la province d'Idlib ces dernières semaines. Signe que les combats ont gagné en intensité. Aujourd'hui, deux avions du régime et un drone turc ont été abattus dans le ciel d'Idlib. Alors baptisé bouclier du printemps, l'opération des Turcs à trois objectifs, selon Ankara. Représailles d'abord à la mort jeudi de dizaines de soldats turcs, vous le disiez, dans un bombardement du régime de Damas, stoppé. Ensuite, deuxième objectif, je cite, les massacres du régime, autrement dit les bombardements aveugles de son artillerie, mais aussi des avions de son allié russe, qui ont fait près de 500 morts et 900 000 déplacés dans la province d'Idlib depuis décembre. Et puis troisième objectif, enfin, empêcher une vague migratoire en faisant reculer l'armée syrienne pour protéger les quelques 3 millions de civils bloqués dans Idlib, dont la pression sur la frontière turque, qui est toujours fermée, est de plus en plus forte. La Turquie n'a ni l'intention ni l'envie d'entrer dans une confrontation avec la Russie, précise Ankara, en répétant que Moscou doit faire pression sur son allié syrien pour qu'il stoppe ses attaques. Le porte-parole du Kremlin a indiqué un peu plus tôt qu'il espérait une rencontre entre les présidents Erdogan et Poutine jeudi ou vendredi prochain. Ce sera sans aucun doute une rencontre difficile, mais les chefs d'État confirment leur volonté de régler la situation à Idlib, a ajouté ce porte-parole du Kremlin.
Merci Aurélien Colli en direct de la frontière syro-turque. Autre frontière turque, cette fois celle avec l'Europe. Pour faire pression sur Bruxelles, Ankara joue la carte du chantage migratoire. Le régime de Recep Tayyip Erdogan ne retient donc plus les migrants sur son territoire, et ce, en violation avec ses engagements avec l'Union européenne. Résultat, la Grèce a demandé l'aide de Frontex ce matin, l'agence européenne de contrôle des frontières. Des renforts ont été déployés. Athènes a annoncé que 10 000 migrants avaient été refoulés hier. Troisième élection législative en seulement 11 mois en Israël demain. Depuis le dernier scrutin en septembre, le premier ministre Benjamin Netanyahou a été mis en examen pour corruption et par ailleurs Washington a présenté un supposé plan de paix très favorable en tout cas à l'État hébreu. Le texte prévoit un tout petit État palestinien morcelé et l'annexion de pans entiers de la Cisjordanie, annexion à laquelle sont favorables d'ailleurs les deux principaux candidats, Benjamin Netanyahou du Likoud et le centriste Benny Gantz. Notre correspondant Frédéric Mettezo s'est rendu sur place dans la vallée du Jourdain à la rencontre de colons israéliens.
À son bureau, dans la mairie de Massoua, David El-Ariani, bientôt 60 ans, étudie attentivement les cartes du plan Trump. Le président du conseil régional de la vallée du Jourdain est membre du Likoud, le parti de droite de Netanyahou, et il trouve que le projet américain est trop généreux avec les Palestiniens.
Je crois que le premier ministre Netanyahou fera la souveraineté, mais on ne veut pas d'un État palestinien. Je demande à Bibi Netanyahou, n'accepte pas le plan Trump, mets-le à la poubelle.
Sur la route 90 entre Jéricho et Tibériade, les champs de palmiers succèdent aux serres agricoles. Dans celle de Gil Rosenblum, ça sent bon le basilic. Et quand on lui demande si c'est déjà Israël,
oui.
La souveraineté, l'annexion ou peu importe comment tu l'appelles, ça ne changera rien à ma vie quotidienne. Ce n'est pas la première chose à laquelle tu penses quand tu votes. Pour moi, personnellement, c'est bleu, blanc, Benny Gantz. On a besoin d'un nouveau dirigeant.
Ici, aux dernières élections, le parti d'extrême droite Yamina a recueilli 30% des voix, devant Netanyahou 27% et Benny Gantz 24%.
Et les derniers sondages placent les deux principaux rivaux du centre et du Likoud à quasi égalité. À peine signé que déjà l'application de l'accord entre les talibans et Washington pose problème. Kaboul refuse de relâcher 5000 talibans et pourtant cette libération figurait parmi les clauses de l'apport historique scellé hier à Doha au Qatar. Mais le président afghan a estimé aujourd'hui que ce n'était pas aux Américains de lui dicter sa conduite. La Joconde, privée d'admirateurs pour cause de coronavirus. Le Louvre est resté fermé aujourd'hui. Les agents du musée parisien craignent d'être contaminés par les touristes. Lieu de passage par excellence, le Louvre a accueilli l'an dernier près de 9,5 millions de visiteurs. Trois quarts étaient des étrangers. Ce matin, une assemblée générale improvisée entre la médecine du travail, le personnel et la direction a duré plusieurs heures. Résultat, plus de 300 agents ont exercé leur droit de retrait. C'est ce qu'a expliqué Christian Galani, il est le représentant CGT du Louvre.
Nous avons des visiteurs qui viennent de toutes parts, de toute latitude, notamment de Chine, mais aussi des Italiens. Les personnels se sentent effectivement en danger. Cela dit, nous avons obtenu à travers l'échange constructif que nous avons eu avec l'administration qu'un CHSCT exceptionnel se tienne demain après-midi.
Précisément, vous demandez quoi pour pouvoir travailler en sécurité, selon vous?
C'est de distribuer à tous les agents ces solutions hydroalcooliques, tous ceux qui sont en contact avec le public. Par ailleurs, nous demandons à ce qu'une infirmerie soit ouverte le week-end, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Mais qu'en tout cas, on discute la question éventuelle de distribution de masques. Il est évident que le musée du Louvre doit adapter les mesures en fonction de l'évolution de la pandémie. À cet égard, il ne serait pas tout à fait exclu de fermer un établissement comme le musée du Louvre, qui est un établissement qu'on peut clairement considéré comme un établissement à risque.
Christian Galani avec Benjamin Illy. Et aux Antilles, à Saint-Barthélemy, trois personnes sont infectées par le Covid-19, annonce aujourd'hui de la préfecture de Guadeloupe. Dans le Grand Est, quatre nouveaux cas ont été détectés dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, parmi eux un bébé d'un an. Et puis à La Réunion ce matin, des habitants sont révoltés contre l'amarrage d'un bateau de croisière. Des heurts ont éclaté avec la police. Le navire avait été refoulé à Madagascar par crainte de propagation du coronavirus. Les 2000 passagers ont pu néanmoins débarquer. Michel Amiel, sénateur LREM des Bouches-du-Rhône, claque la porte du parti présidentiel. L'élu entend ainsi marquer son désaccord avec le recours au 49-3. Il explique avoir été très déçu par la décision du gouvernement. Dernières heures avant la fin des négociations annuelles commerciales. 4 mois de discussions entre grandes marques, producteurs, distributeurs. Mais cette année, la loi Egalim pourrait changer le scénario classique où les agriculteurs terminent grands perdants. Le prix d'achat doit être fixé en fonction du coût de production, c'est ce que garantit le texte. Alors la loi a-t-elle eu les effets escomptés? Anne Lorchouin est allée poser la question dans les allées du Salon de l'agriculture qui a fermé ses portes hier.
Des discussions moins tendues entre les acheteurs et les vendeurs, c'est ce qui ressort pour l'instant de ces négociations annuelles. Ou même si les pressions se font moins fortes, ce sont toujours les acteurs de la distribution qui sont en position de force. Un point positif, cependant, ces négociations sont cette année beaucoup plus transparentes. Julia Bombardier, avocate spécialiste de la consommation au cabinet Jantet.
L'esprit de la loi Egalim, il est clairement dans les contrats. On voit qu'on part bien du prix qui est proposé, en tout cas par le producteur. On voit qu'il y a une clause de détermination du prix qui repose sur des indicateurs proposés par les interprofessions. Et puis on voit que le rôle du médiateur, il est clairement là. C'est un rôle qui est décisif, qui commence un peu finalement à entrer dans la culture, ce qui est quelque chose d'assez important. Et on voit également qu'en cas de difficulté, les remontées des acteurs sont beaucoup plus faciles qu'auparavant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés.
Difficultés dues notamment au fait que les agriculteurs, même représentés, ne sont pas le plus souvent en position de négocier des clauses de prix très techniques, en tout cas passant le concours d'avocats spécialisés. Dans la filière laitière, pourtant, le prix payé aux producteurs remonte doucement. Marie-Thérèse Bonneau, secrétaire générale de la Fédération nationale des producteurs laitiers.
L'indicateur de prix de revient du prix du lait a été validé par Bruxelles, donc il n'y a plus aujourd'hui d'entrave à ce que les opérateurs que sont les transformateurs laitiers et les distributeurs s'en emparent dans le cadre de négociations qu'ils ont entre eux pour pouvoir renvoyer du prix aux producteurs.
Des prix qui remontent pour le lait bio, dont les producteurs arrivent enfin à se dégager une rémunération. Ça n'est pas encore le cas pour certains segments du lait de montagne et pour l'ensemble du lait conventionnel.
Le reportage d'Anne-Laure Chouin. Le temps, 9 départements encore en vigilance orange ce soir pour vent violent de l'Indre à la Côte d'Or. Demain matin, temps humide sur la quasi-totalité du pays.